On aimerait profiter des semaines, des mois à venir pour exposer certaines valeurs qui sont au cœur de notre identité, au cœur de notre Église, au cœur de notre vision d'Église, pour que nous soyons tous sur la même longueur d'onde. Et à l'époque, quand on avait réfléchi à plusieurs choses importantes, des valeurs clés pour notre Église, nous avons pris un peu les lettres de EBTM. Nous, ici, c'est l'Église Baptiste Toulouse Minime, donc EBTM. Et on va commencer avec Évangile, E pour Évangile. Et donc, je vais lire ce premier chapitre de la lettre aux Galates, et vous allez déjà écouter pour entendre ce mot Évangile, et voir à quel point c'est important pour nous. Donc, lisons Galates chapitre 1. Paul, apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi, aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que j'annonce parmi les païens, aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang, et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je partis pour l'Arabie, puis je reviens encore à Damas. 3 ans plus tard, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas. Et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je n'avais aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie, de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait, annonce maintenant la foi qui s'est forcée alors de détruire. Elle glorifiait Dieu à mon sujet. 14 ans après, je montai à nouveau à Jérusalem avec Barnabas. Ayant aussi pris Tite avec moi, ce fut d'après une révélation que j'y montai, je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de m'accourir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire, et cela à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. J'ai débordé dans le chapitre 2, surtout pour avoir ce dernier verset, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. La pensée majeure, la pensée clé ce matin que j'aimerais partager avec vous, c'est que l'Évangile, ce n'est pas que pour les non-chrétiens. L'Évangile, ce n'est pas que pour les non-chrétiens. Et c'est quelque chose que nous aimons répéter, comme Paul répétait et revoir souvent dans une phrase que nous avons reprise d'autres, mais que nous avons mis aussi dans les cours découvertes. Nous aimons dire dans notre Église que l'Évangile n'est pas juste le B à B de la vie chrétienne, l'Évangile c'est le A à Z. L'Évangile c'est pas juste ce qui vous sauve, mais c'est aussi la puissance qui vous porte, qui vous sanctifie, qui vous pousse à aller de l'avant pendant toute votre vie chrétienne. Et personnellement, je peux dire qu'ici, il y a une vérité qui m'éclaire dans le ministère, une chose que j'ai appris depuis l'Institut biblique, c'est celle-là, que l'Évangile n'est pas que pour les non-chrétiens, c'est pour nous tous. Je me souviens, à l'Institut biblique, j'avais le frère de Vincent, professeur, premier devoir, mémoriser, apprendre par cœur l'Épître aux Galates. Fallait le faire, je l'avais fait. Mais ça ne veut pas dire que j'ai tout maîtrisé et que je maîtrise encore. Et avec les années de ministère qui passent et d'église qui passent, je vois à quel point la pensée de Paul est pertinente pour nous aujourd'hui. Lors de la Réforme, il y a eu vraiment une redécouverte de l'Évangile. C'était ça la Réforme, une redécouverte de l'Évangile. Et on dit qu'un des ouvrages les plus importants qui nous est venu de la Réforme, hormis la Bible imprimée, diffusée, traduite, un des ouvrages les plus importants, c'est la commentaire de Luther sur Galates. Parce que dans ce commentaire, finalement, c'était, dans ce livre de Galates, il y avait tout. Il y avait tout ce que représentait la Réforme et cette réveil immense qui a bouleversé la civilisation. Et encore aujourd'hui, ce livre et la pensée qui s'y trouve fait vraiment des merveilles, je dirais. Aujourd'hui, j'ai l'impression, j'ai pas le recul pour le dire, mais j'ai l'impression que nous vivons une redécouverte de l'Évangile dans nos milieux, dans nos églises. C'est le sentiment des deux côtés de l'Atlantique, en tout cas. Et parce qu'on a recapté, on a retraduit pour aujourd'hui la vision de ce livre. Et on va vous le représenter ces temps-ci. La lettre aux Galates a été écrite, puisque nous savons ça, nous venons d'étudier le livre des Actes, donc on sait à peu près maintenant. Vous êtes au courant que la lettre aux Galates s'était écrite aux premières églises que Paul a fondées, ce premier voyage missionnaire. Donc c'était les premiers fruits de l'Évangile dans cette région de la Galatie. Mais déjà, il y a un problème, déjà il y a un danger qui menace ces églises, d'où la nécessité de cette lettre. Et ce que nous allons voir ce matin, nous allons voir tout d'abord une mauvaise surprise, ensuite quelques principes pour éviter la mauvaise surprise, et j'aimerais terminer avec une bonne surprise. Une mauvaise surprise que Paul a vécue, et puis quelques manières pour éviter la mauvaise surprise parmi nous, et enfin une bonne surprise. La mauvaise surprise, on la trouve en verset 6, Paul dit « Je m'étonne ». Que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à notre évangile. Voilà, la mauvaise surprise pour Paul, c'est ces églises passaient à autre chose. Ils avaient reçu l'évangile, mais ils se détournaient et promptement de cet évangile. Pour revoir sa pensée une autre fois dans cet épître, c'est chapitre 3, le début du chapitre 3, où il redit un peu la même chose. Aux Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Eh bien, parmi ces chrétiens, et ça a été véhiculé par des visiteurs de passage qui sont venus là, les gens disaient, ben, c'est très bien d'avoir cru en Jésus-Christ, c'est super, maintenant, on va vous donner maintenant la vraie clé de la vie chrétienne. C'est très bien d'avoir cru en Christ, maintenant il vous faut autre chose plus puissant, plus intéressant, plus passionnant. C'est-à-dire la loi, la circoncision, les pratiques juives. Alors, ils avaient l'évangile, c'était très bien, maintenant on va passer à autre chose. Et ça peut paraître étonnant, surprenant, puisque Paul le dit, je m'étonne, mais c'est une conception de la vie chrétienne qui n'est pas si rare, je crois, en nous et dans nos milieux. Il y a cette idée, et je le connais parce que je pense qu'elle se trouvait dans ma tête aussi, de ma manière de fonctionner. L'évangile, c'est très bien, c'est pour les non-chrétiens. C'est-à-dire, les non-chrétiens, ils ont besoin d'être évangélisés. Donc, l'évangile, c'est pour les non-chrétiens. Et puis, une fois qu'on a compris, maîtrisé l'évangile, là, on passe à autre chose. C'est-à-dire, l'évangile, c'est la porte d'entrée, et après, il y a un long chemin devant nous, on serre les dents, on se serre les coudes, et puis on essaie de faire notre mieux, d'avancer dans ce chemin. Comme je dis autrement, on peut dire, l'évangile, c'est des bases, c'est le béaba, et puis on le maîtrise, on le valide, et on passe à autre chose. Ou parfois, je crois déjà ici, j'ai essayé de l'expliquer avec une voiture. Pour démarrer la voiture, vous avez la batterie. Vous avez une puissance qui vient de la batterie. Et donc, vous démarrez votre voiture, mais ce qui fait avancer, ce qui pousse la voiture, c'est le moteur. Et ici, dans les églises ici, en Galatie, c'était cette conception-là. On démarre la voiture avec l'évangile, mais le moteur, ce qui nous fait avancer, ce qui nous porte, ce qui nous fait vraiment chrétien, vraiment saint, vraiment bien, c'est... une autre puissance, c'est la loi. Voyons si cette mauvaise surprise se trouve quand même dans notre pensée. Vous demandez aux gens dans la rue, les gens autour de vous, que faut-il faire pour aller au ciel? Et c'est même, on en parlait la semaine dernière avec Raphaël. Vous demandez autour de vous, c'est quoi la foi chrétienne? Qu'est-ce qu'il faut pour aller au ciel, pour aller au paradis? Vous savez très bien ce qu'ils vont vous répondre. Ils vont dire, il faut être bon, il faut faire des efforts, il faut obéir à des commandements, il faut être meilleur, il faut mériter la bénédiction. La plupart d'entre nous sauraient dire, ça c'est pas l'évangile, ça c'est pas la Bible. La Bible, l'évangile qui dit non, vous n'êtes pas bon, Christ l'a mérité le ciel à notre place. Sa mort et sa résurrection nous ont gagné le ciel. Ça, c'est l'évangile. Donc, très bien. Jusqu'à là, tout va bien. Mais ensuite, vous demandez aux chrétiens, y compris des pasteurs, des moniteurs d'école du dimanche, des parents chrétiens, « Ok, maintenant qu'on a accepté l'évangile, qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre la vie chrétienne pour plaire à Dieu ?» Voilà ce que je pense vous ai entendu. Je pense qu'il faut être bon, il faut faire des efforts, il faut obéir à des commandements de Dieu, il faut être meilleur, il faut mériter la bénédiction de Dieu. C'est là où Paul dit non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça, ça c'est un autre évangile. Et vous venez de vous détourner de la pensée clé de la foi chrétienne. Et Paul peut dire, c'est Galates, je m'étonne que vous basculez si rapidement dans la même pensée que partagent toutes les religions païennes finalement. En quoi vous êtes différent? Et c'est pour ça qu'il dit c'est un autre évangile, c'est même pas un autre évangile, c'est un anathème. Un jour, c'était comme une révélation pour moi, je discutais avec mon épouse Rebecca, vous savez que tous les deux nous avons grandi dans des églises, des bonnes églises. Nous avons tous les deux entendu beaucoup de messages. J'ai moi-même prêché un certain nombre de ces messages. Et on discutait, on se disait s'il fallait résumer un peu la pensée que l'on reçoit souvent dans nos rencontres et dans nos cultes et dans nos messages, s'il fallait résumer l'idée que nous retenons, s'il fallait résumer une grande partie du message apporté aux chrétiens, on a fait le constat qu'une grande idée qui était véhiculée aux chrétiens, tout simplement, c'est, voilà, vous ne faites pas assez bien, désormais, faites mieux. Et là, on peut décliner ça sur tous les sujets de la Bible. On parle de la prière. Ah ben, vous ne priez pas assez, n'est-ce pas? Alors désormais, priez plus, priez mieux. Ou bien le témoignage chrétien. Ah, vous ne témoignez pas assez, n'est-ce pas? Alors désormais, témoignez plus, témoignez mieux. Ou bien, donner, participer à l'œuvre de Dieu. Alors on peut faire le constat, on ne donne pas assez. Désormais, donnez plus. Mais on s'est rendu compte que, est-ce que c'est vraiment ça est-ce que c'est ça le cœur du message chrétien? Est-ce que c'est ça la bonne nouvelle? Est-ce que c'est ça l'évangile que nous voulons véhiculer et marteler et inculquer aux chrétiens? Et on a dû se rendre compte que non, c'est pas ce que nous voulons, c'est pas ça l'évangile. Vous vous souvenez, la semaine dernière, Raphaël, il nous parlait de l'athéisme fonctionnel parfois des chrétiens. Et ils affirment certaines choses, mais dans leur vie, c'est comme s'il y a un athéisme fonctionnel. Ici, c'est le légalisme fonctionnel. C'est-à-dire, on affirme que Christ sauve, on croit en Christ, mais derrière, si on creuse dans notre cœur, si on creuse dans notre conscience, si on creuse dans notre manière de regarder les autres, il reste un code légal, un code moral, un code secret, un code vestimentaire, un code autre, par lequel nous croyons obtenir la faveur de Dieu. Bien sûr, le problème n'est pas dans ces codes, il en faut, hein, mais c'est quand on s'en sert pour rassurer son cœur qu'on est meilleur que l'autre, qu'on est quelqu'un de bien. Et donc, je vous dis ce matin que le grand défi de la vie chrétienne, c'est de rester évangélique, c'est de ne pas se détourner de la bonne nouvelle de l'évangile. Par exemple, mettons-nous un instant dans la pensée de quelqu'un qui n'est pas chrétien et qui regarde toutes les religions du monde avec un regard de neutre, on va dire ce matin, supposer que ce regard est neutre, et puis il veut tout simplement comprendre la différence entre les différentes foi, les différentes religions. Alors il regarde un peu tout ce qui existe et dit d'accord, bon, je vois les musulmans, eux, si j'ai bien compris, ils doivent pas manger, ils doivent manger halal et puis ils doivent faire des pèlerinages à la Mecque, ça c'est leur religion. Et puis je regarde les catholiques, bon, eux, ils doivent pas manger la viande vendredi, ils mangent du poisson, et puis ils doivent aller à la messe, d'accord, ça c'est eux. Les juifs, bon, les juifs, eux, ils doivent pas travailler le samedi, et puis ils doivent circoncire les garçons, les bébés garçons, d'accord, ça c'est leur truc. Et puis les évangéliques, les protestants, c'est quoi leur truc? La question, c'est que s'ils nous fréquentent pendant un certain temps, qu'est-ce qu'ils diraient? C'est quoi leur truc? Et est-ce que notre truc, c'est, voilà, il faut lire sa Bible 15 minutes par jour et il ne faut, faut pas fumer, il ne faut pas... Nous voulons affirmer que ce n'est pas ça, que l'Évangile est autre chose. Et la question, c'est est-ce que notre culture d'Église sort du lot, en quelque sorte, pour montrer vraiment quelque chose de radicalement différent de tout le reste. Ça, c'est... On ne veut pas être pris dans cette mauvaise surprise d'avoir passé à autre chose que l'Évangile de Christ. Maintenant, comment éviter que cela nous arrive? Eh bien, justement, tout d'abord, c'est reconnaître que l'Évangile, c'est quelque chose de si différent, radicalement autre. C'est quelque chose qui ne nous vient pas naturellement, qui ne nous vient pas instinctivement. Ce n'est pas de l'homme. Et c'est une pensée majeure dans ce premier chapitre que Paul veut transmettre aux Galates. Il dit en verset 11, par exemple, « Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. » Et puis, pendant tous ces versets, il va donner tous ces détails autobiographiques pour dire que l'évangile, ce n'est pas quelque chose qu'il a hérité d'une tradition. Ce n'est pas quelque chose qui lui a été un savoir-faire qui était venu de ses ancêtres. Ce n'est pas quelque chose qu'il a peaufiné en parlant aux uns aux autres. Ce n'est pas quelque chose qu'il a trouvé dans son cœur et qui est venu naturellement. Non, il dit tous ces détails, c'est pour dire, voilà, je n'ai pas consulté le chair et le sang. Je n'ai pas consulté d'autres. On ne m'a pas appris ces choses. Je ne les ai pas inventées moi-même. C'était Dieu qui me les a donnés, c'est Christ qui me les a révélés. C'est-à-dire, c'est rien de naturel, rien de l'homme, rien de chez moi. Ça descend de Dieu. Et pour Paul, c'est une preuve de l'origine divine de l'Évangile. C'est quelque chose qui le distingue de tout le reste. C'est pas naturel, c'est pas de l'homme. Et quand vous regardez bien, c'est un peu le constat qu'on peut faire. Il n'y a pas besoin d'une révélation si surnaturelle pour fonctionner comme toutes les religions fonctionnent, et pour fonctionner comme toute la société autour de nous fonctionne. Finalement, toutes les autres religions annoncent quelque chose de plus ou moins logique, normal, d'humain, c'est-à-dire, vous ne faites pas assez bien, faites mieux. Et voilà. C'est ça qui est fort dans ce schéma-là. L'athéisme le plus prononcé et la religion la plus zélée se rejoignent. Ils ont quelque chose de très identique. C'est culture de mérite. Mais l'évangile est radicalement autre, différent. C'est pas comme tout ça. Et on peut savoir, et c'est ça qui va nous éviter les mauvaises surprises dans notre église, on peut savoir que l'évangile va jamais nous venir instinctivement. Ça va jamais être la démarche naturelle, la pensée qui nous saute facilement à l'esprit. Parce que la pensée qui saute facilement à l'esprit, c'est je dois me prouver, je dois faire mieux, je dois travailler, je dois mériter, je dois. Mais l'évangile ne suit pas ce schéma. Donc, on va pas, dans ce domaine-là, en tout cas, on ne va pas pouvoir suivre nos instincts, suivre la chair. Une autre réflexion qui peut nous aider, qui va protéger un peu chacun de nous, notre Église, c'est de se dire que, comme Paul révèle dans cette lettre, que même Pierre et même Barnabas avaient du mal. Même Pierre et même Barnabas avaient du mal à rester attachés à l'Évangile, à maintenir la vérité de l'Évangile, à ne pas se détourner du message et de la manière de fonctionner qui vient avec l'Évangile. Pierre, c'est un chrétien, il était chrétien bien avant Paul. Il était le plus considéré parmi les apôtres avec Barnabas. C'est Barnabas qui avait pris Paul, qui était son mentor pendant un temps. Et bien, ces deux-là ont oublié, on va dire, ont raté quelque chose par rapport à l'Évangile. Ça, on va le voir dans le chapitre 2. Mais c'est une réflexion pour chacun de nous. Si les chrétiens les plus éminents, les plus avancés, les plus considérés dans le Nouveau Testament, les chrétiens les plus proches de Jésus-Christ, si eux, ils avaient du mal à garder l'Évangile en tête, en tout temps, dans tout leur rapport avec les autres, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Et Paul va expliquer que dans un moment, Pierre et Barnabas ont eu un comportement qui trahissait un oubli, un abandon de l'Évangile. Ce jour-là, ce n'est pas que Pierre et Barnabas ont prêché du haut de la chair un autre message en disant « voilà, c'est plus Christ qui sauve, il n'y a pas vraiment eu la résurrection ». Non, c'était pas dit comme ça. Mais quand on oublie l'Évangile, c'est souvent dans les non-dits, c'est souvent dans les attitudes, les ambiances que l'on crée dans l'Église, et c'est là qu'on veut éviter. C'est des attitudes, des regards qui se cachent dans le cœur. Et ce jour-là, en fait, voilà ce qui s'est passé. En fait, ils mangeaient en deux groupes. Ou en tout cas, les uns ne mangeaient pas avec les autres. Alors, est-ce qu'il y a un problème de ne pas manger ensemble, de manger en deux groupes? Non, il n'y a pas de problème de manger en deux groupes. Sauf, en l'occurrence, il y avait un gros problème par rapport au message que cela véhiculait à la compréhension de l'Évangile. Parce qu'en fait, ils mangeaient en deux groupes, et les uns disaient, en fait, ici c'est le groupe, puisqu'on mange selon les lois juives, les lois alimentaires juives, ici c'est le groupe des vrais chrétiens, des chrétiens saints, des chrétiens obéissants, des chrétiens en route pour le ciel. Et là-bas, c'est d'autres. Et vous voyez ce qu'on vient de faire quand on fait comme ça? On vient d'introduire un autre chemin de salut. On vient d'introduire un autre schéma. Et c'est là où Paul va dénoncer sévèrement cette pratique, parce que c'est vrai, c'était pas dit ouvertement, mais dans la pratique, c'était finalement ce qui était dans le cœur. L'Évangile c'est bien, mais ce qui nous fait vraiment avancer, c'est cet attachement à autre chose, en l'occurrence la loi de Moïse. Et tout l'appel de cette lettre, c'est de réfléchir dans tout ce que nous faisons et dans tous les conseils que nous pouvons donner et tous les encouragements que nous pouvons donner entre nous et toute notre manière de vivre l'Église, c'est de se dire comment maintenir la vérité de l'Évangile parmi nous. C'est ça l'appel de cette épître, ne pas se détourner de l'Évangile, mais fonctionner toujours ainsi. Vous savez, tous les pasteurs et toutes les églises, ils ont leur dada. Tous les pasteurs, ils ont leur dada. Ça, on ne peut pas l'éviter. Il faut juste, j'ai essayé de prendre la résolution personnelle, si j'ai un dada, il faut bien que ce dada soit, soit l'évangile, soit Christ crucifié. En tout cas, c'était le dada de Paul. Et on le trouve dans toute sa manière de fonctionner, toute sa prédication. Il reproche en chapitre 3, il reproche les Galates, vous dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Vous voyez ce qu'il veut dire là? Il veut dire, moi et d'autres, nous vous avons peint Jésus-Christ crucifié. Et Paul dit, pour moi, ça c'est la chose la plus fascinante qui soit, la plus suffisante qui soit, la plus merveilleuse qui soit, c'est ça qui vous vaut pour toute votre vie chrétienne. Et là, vous avez trouvé quelque chose de plus fascinant? Vous avez trouvé quelque chose de plus efficace que ça? Il dit, non, c'est la folie, c'est dépourvu de sens. Le dada de Paul, c'était Christ crucifié, c'était l'évangile, et voilà, il a su le décliner dans toutes les sources, pour toutes les circonstances, pour garder l'Église attachée à Jésus-Christ. Jésus lui-même a dit, nous avons étudié ça dans le livre d'Apocalypse, Jésus lui-même a dit, je suis l'alpha et l'oméga. C'est vrai, il est l'alpha et l'oméga de l'histoire, c'est lui qui a créé l'univers, et c'est lui qui va achever la dernière histoire, le dernier jugement, mais il est aussi l'alpha et l'oméga de notre vie chrétienne. C'est quelqu'un devient chrétien lorsqu'il comprend et aime Jésus-Christ, et quand vous avez un problème dans la vie chrétienne, quand vous avez un péché dans la vie chrétienne, quand vous avez un découragement dans la vie chrétienne, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous faites pareil que celui qui vient de se convertir. Vous vous attachez à Christ, vous vous repentez de vos péchés et vous croyez à la bonne nouvelle. Ça, c'est la vie chrétienne. Il n'est pas le B.A.B.A. mais le A.A.Z. Donc, l'appel ici, c'est de penser à lui, le garder au centre. C'est toujours lui qui est fascinant et qui est passionnant. Et qui est vrai. On a vu la mauvaise surprise que nous ne voulons pas trouver un jour parmi nous, de se détourner si promptement de l'évangile pour passer à quelque chose de meilleur, de plus fascinant. Il n'y a pas de chose meilleure. On a vu quelques réflexions pour éviter cette mauvaise surprise. Maintenant, je vous donne la bonne surprise pour terminer. La bonne surprise, c'est que ce message, cet évangile, transforme les vies et n'arrête pas de transformer les vies. Je pense à ces Galates. C'est vrai qu'ils ont baigné toute leur vie dans une société païenne. C'était la première mission vraiment en dehors de Jérusalem, du cadre juif. Donc voilà, ces Galates, ces non-juifs qui se convertissent maintenant à Christ, Messie juif, et qui se convertissent maintenant, qui veulent vivre leur vie chrétienne. Et je pense que ces chrétiens juifs qui ont posé pas mal de problèmes ici pour Paul et pour les Galates, ces Juifs-là, ils ont dû se dire, d'accord, ces Galates, ils étaient dans le monde païen avant, ils étaient dans le présent siècle mauvais, maintenant, il faut les sortir de là, il faut les arracher du mal et du monde et du péché et de leur ancienne vie. Et ils ont dit, comment on va faire ça? On va faire comme on sait faire. On va dire maintenant circoncision, maintenant loi alimentaire, maintenant on mange pas avec les autres, tout ça. On va faire comme ça. Comme ça, ils vont être arrachés du mauvais siècle autour d'eux. C'est très bien qu'ils aient cru en Jésus-Christ, mais on a peur que s'ils restent avec ça, ils restent dans le présent mauvais siècle. Donc, loi alimentaire, circoncision ou autre code moral, légal, compagnie. Le problème, c'est que quand on fonctionne comme ça, on le sait tous, ça crée des gens qui sont hypocrites, des gens qui sont propres justes, des gens qui se croient meilleurs que les autres, des gens qui s'appuient pas finalement sur Jésus-Christ, mais sur eux-mêmes, c'est-à-dire ça crée l'espèce de gens qu'on veut pas dans une église, qu'on veut pas dans... un monde rempli de ces gens-là. Une église remplie avec ces gens-là, c'est triste, c'est affreux. Donc, comment faire pour arracher les gens du présent mauvais siècle, pour qu'ils vivent dans la sainteté, dans la vérité? Mais je crois que Paul a compris, parce que déjà dans ses salutations, il rappelle la puissance de l'évangile, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Paul dit que c'est dans ce geste, c'est dans cette croix, c'est dans ce que Christ a fait et qu'on trouve la puissance pour nous arracher du présent siècle mauvais. Oui, c'est ça la bonne nouvelle. Jésus est venu dans ce présent siècle mauvais et il a donné sa vie pour nous en arracher. Et à la croix, Dieu, il a regardé son propre fils, son fils. Et à la croix, Dieu a dit à son fils qu'il soit anathème pour que aucun de nous soit anathème. C'est ce qu'il va développer plus tard. Jésus est devenu malédiction, anathème, pour que nous ayons bénédiction, pour que nous ayons une nouvelle vie. Jésus a accepté d'être maudit, d'être anathème, pour nous sauver. Et cette réflexion-là change tout. Parce que là, ces gars-là pouvaient se dire, ah oui, ça c'est différent. Le judaïsme, c'est jamais donné pour nous arracher du mauvais siècle présent. Nos parents ne se sont jamais donnés pour nous arracher, pour nous délivrer du péché. Nos enfants, notre patron, il n'y a rien qui s'est donné pour nous arracher de ce monde, pour nous libérer, pour nous donner la vie éternelle. Il n'y a que Christ qui l'a fait, il l'a fait à la croix. Et quand on a ça en tête, ça change notre manière d'aborder tout, de réfléchir sur tout, et ça change toutes nos motivations. Alors c'est vrai, hein, comme on a dit tout à l'heure, quelqu'un va vous dire, oui, vous ne priez pas assez. Vous pouvez constater, vous pouvez dire, oui, c'est vrai. Quelqu'un va vous dire, vous ne témoignez pas assez. Oui, d'accord. Vous ne donnez pas assez. Oui, d'accord. Mais avec l'évangile, la bonne nouvelle en tête, vous pouvez dire, vous pouvez savoir, oui, je sais, mais c'est justement pour ça que Jésus est venu. Il est venu à ma place. C'est lui qui a prié toujours plus et mieux. C'est lui qui a témoigné toujours parfaitement. C'est lui qui a donné non pas seulement ses dîmes et ses offrandes, mais il a donné sa vie. Et il l'a fait parce que nous, on ne l'a pas fait. On était incapables, on était même nuls dans ces domaines. Il l'a fait à notre place. Et puis pour toutes les fois que nous avons échoué, nous avons défailli, nous avons péché, il a pris les conséquences sur lui. C'est ça la croix. Il a pris les conséquences sur lui. Et la bonne surprise, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est presque magique, c'est presque automatique, mais quand on aime ce message, quand on comprend la bonne nouvelle, quand on regarde à la croix, et qu'on sait qu'il a fait tout ça pour moi, eh bien, tiens, j'aimerais remercier Dieu, je vais prier un peu plus cette semaine, parce que j'aimerais revoir de nouveau Christ peint comme crucifié. Je vais vouloir lire ma Bible plus. Et puis, je vais témoigner davantage parce que j'ai compris ce qui s'est fait pour moi. Et puis, comment ne pas donner parce qu'il il a tout donné pour moi. Et puis, c'est ça la bonne surprise. Tout ce comportement qu'il s'inquiétait de voir produire chez les Galates. Il pensait que ouais, cet évangile, finalement, c'est juste des faits, c'est Christ est mort et ressuscité, d'accord, tout le monde est d'accord. Maintenant, il faut quelque chose pour les motiver, il faut une moteur qui les pousse. Oui, on a bien démarré la voiture avec la batterie, maintenant, il faut que ça tourne plus vite. Mais c'est pas comme ça. Et on découvre que oui, la puissance de l'évangile est suffisamment puissante pour nous pousser tout au long de la vie chrétienne. Et c'est cette pensée-là, j'espère que vous arrivez à le formuler, à le capter. Nous voulons qu'elle marque notre Église dans tout ce que nous faisons, dans les encouragements qu'on se donne les uns aux autres, dans l'espoir qu'on porte sur les gens qui sont en difficulté, qui sont pris dans le péché. Nous voulons encore leur conseiller, encore leur dire la victoire, la libération, la force. Et en Jésus-Christ, il n'y a rien de plus passionnant, de plus fort, de plus merveilleux, de plus efficace que l'évangile qu'il a donné sa vie pour vous, qu'il est ressuscité pour vous délivrer du péché. Maintenant, méditez-le, prenez-le, avancez avec ça. Que Dieu vous bénisse, nous allons prier.